Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle journée sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des banderoles déployées ce matin sur les casernes des pompiers au premier jour d'une mobilisation nationale qui va durer 6 semaines. Ils vont demander plus de moyens financiers, matériels et humains. On va y revenir. On reviendra aussi longuement sur l'info qu'on vous révèle depuis ce matin sur RMC dans l'affaire Liana, à savoir la piste d'une mort par asphyxie mise en évidence. Et sur les récoltes catastrophiques également des vendanges, les viticulteurs, vous les entendrez, s'attendent déjà à la pire année depuis 30 ans.
Après avoir lutté contre le feu tout l'été, les pompiers se lancent dans une longue mobilisation de colère ce matin.
Elle va durer 6 semaines à l'appel de leurs 9 syndicats pour réclamer davantage de moyens, et pas que financiers d'ailleurs, au moment où le gouvernement va leur dévoiler un projet de loi visant à moderniser le système de sécurité civile. Ils ont l'obligation, vous vous posez certainement la question, d'intervenir ainsi nécessaire, mais vous allez sûrement voir des banderoles et des messages donc à partir de ce matin sur leur caserne ou leur camion. Ils disent notamment, Vincent Chevalier à Lyon pour RMC, eh bien qu'ils doivent de plus en plus souvent partir en intervention et qu'il faudrait recentrer leur mission.
Des interventions plus nombreuses, souvent plus techniques. Pompier depuis 12 ans, Florian a vu son métier évoluer.
La priorité, c'est de partir en intervention. Le problème est que si on prend le cas des incendies, c'est de plus en plus technique. On doit, si on suit la logique, continuer en fait à se former et continuer à maintenir, si je peux appeler ça, ce niveau d'excellence. On manque cruellement de personnel pour continuer à maintenir en fait nos compétences en caserne.
Des conditions de travail qui commencent à peser sur les effectifs, d'après Steve Martinez, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels dans le Rhône.
Ce qui est malheureux, c'est qu'on a une augmentation des maladies, on a une augmentation des pathologies, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus pris en compte.
Et selon les syndicats, tous ces manques ont des conséquences pour la population. Valentin Violet, porte-parole Sud.
On commence déjà à le voir avec des temps de secours qui s'allongent, et des temps d'intervention qui ont augmenté de plus de 2 minutes en France.
Cette mobilisation n'impactera pas les interventions car les pompiers peuvent être désignés voire réquisitionnés pour assurer la continuité de leur mission.
Et il y a aussi les agents de la fonction territoriale hospitalière qui se mobilisent à partir d'aujourd'hui. L'hôpital meurt, voilà ce que dénoncent les syndicats. Ils prévoient des actions symboliques ce mardi, des minutes de silence ou des brassards noirs par exemple, après un été de surchauffe pour eux aussi avec les canicules. Les rassemblements devant les tribunaux ont repris comme prévu hier soir dans de nombreuses villes, 1 millier de personnes à Paris, des centaines à Toulouse notamment, pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. 3 mois après l'épouvantable affaire Liana, la fillette violée et tuée dans le Gers, dont on connaît les pistes possibles de la mort ce matin. C'est une information que vous nous révélez depuis ce matin pour RMC, Mathias Tesson, vous êtes le chef du service police-justice en direct. Vous nous dites que les expertises réalisées sur le corps de la jeune fille mettent en évidence donc la piste de l'asphyxie.
Oui, asphyxie mécanique par obstruction des voies aériennes supérieures. Ce sont les termes utilisés par les experts pour expliquer le décès de Liana. En d'autres termes, la respiration de la fillette a pu être empêchée au niveau de la bouche et du nez, des expertises qui suggèrent donc une mort par manque d'oxygène, par suffocation. Rappelons que l'enquête avait également démontré que la fillette avait pu être bâillonnée avec du scotch.
Concrètement, cette information, qu'est-ce que ça change pour la suite de l'enquête?
Ça signifie que les investigations médico-légales avancent, que Jérôme Barella pourrait à nouveau être interrogé par le magistrat instructeur pour être confronté à ces nouveaux éléments. Toutefois, des investigations complémentaires doivent maintenant se poursuivre pour préciser les circonstances de cette mort par asphyxie. Au mois de juillet dernier, une perquisition à son domicile avait permis la saisie d'objets pouvant avoir un lien avec la mort de la fillette. L'homme a toujours nié les faits reprochés, que ce soit le meurtre ou le viol de la fillette.
Information de Mathias Tesson, donc chef du service police justice à RMC. La Tour Eiffel va rouvrir ce matin à Paris au lendemain de la grève des salariés qui s'indignaient de l'éviction du personnel féminin. Priez de se cacher, ni plus ni moins. Des consignes ont été données, déplore la CGT. C'était samedi dernier lors de la visite d'un groupe religieux hindou. Groupe qui présente d'ailleurs ses excuses ce matin. On reparle ce matin des abayas. Enfin, ce sont les candidats à la présidentielle, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui déplorent l'idée de la France insoumise d'autoriser à nouveau ce vêtement traditionnel dans les écoles en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon l'année prochaine à la présidentielle. La promesse a été faite durant le week-end. On verra ce qu'en dit le RN Jean-Philippe Tanguy face à Apolline tout à l'heure à 8h30. Cyprien Pézeril du service politique à RMC, les insoumis assument.
Oui, dès 2023, les Insoumis s'opposaient à l'interdiction de l'abaya à l'école. Ils dénonçaient alors, je cite, une stigmatisation islamophobe et assuraient notamment qu'il ne serait pas possible de distinguer ce vêtement originaire des pays arabes d'une autre robe longue. Et si les opposants de Jean-Luc Mélenchon l'accusent toujours aujourd'hui de verser dans le clientélisme, les Insoumis, eux, assument, bien décidés sur ce sujet comme sur d'autres, à camper sur leurs fondamentaux, que ce soit aussi par exemple sur l'écologie ou le pouvoir d'achat. On ne gagne pas des électeurs en lissant notre discours, mais en mobilisant, assure un cadre insoumis. Quand un dirigeant LFI défend, on ne doit pas se désintéresser de nos premiers cercles électoraux. Mais attention, prévient un stratège socialiste, avec ce genre de proposition, Jean-Luc Mélenchon entretient son plafond de verre et s'empêche toujours de gagner au second tour.
Le compte signé toujours pas ce matin pour les agriculteurs de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Ils seront reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu dans la journée qui juge insuffisant le plan à 1 milliard d'euros annoncé la semaine dernière pour les aider après l'été caniculaire. Été dont on ne finit plus de mesurer les conséquences sur la filière viticole notamment. Vous savez que c'est la période des vendanges en ce moment. Le ministère de l'Agriculture anticipe un niveau de production historiquement bas, à moins de 34 millions d'hectolitres. C'est 6% de moins sur un an. Pire récolte depuis 30 ans, avec des disparités régionales. Champagne, Beaujolais, Bourgogne principalement touchés, hein, Célestin Bougère.
À Ruilly, en Saône-et-Loire, le chef d'exploitation de vin bourguignon, David Lefort, se plonge dans ses comptes.
Les pertes s'élèvent à 40% sur les chardonnays et 50% sur les pinots noirs.
50% de pertes pour le pinot noir, c'est la moyenne cette année en Bourgogne. Un chiffre qui a de quoi inquiéter. Mais avec les épisodes de sécheresse et de forte chaleur, David Lefort s'y attendait.
Une partie des raisins grillent au soleil avec des fortes températures. On risque de perdre des marchés ou de limiter fortement notre offre à la clientèle.
Cette année, ce n'est pas seulement la sécheresse qui a touché le domaine d'Annie Copéret dans le Beaujolais.
Deux gros orages de grêle qu'on a eu.
Moins 30% de raisins récoltés cette année en moyenne pour les Beaujolais. Les prix devraient augmenter légèrement selon la viticultrice.
Ils n'augmenteront pas proportionnellement. On ne compensera jamais la perte avec l'augmentation de nos bouteilles. Mais la qualité, là, par contre, hein, c'est une année très très solaire. Donc, on fait des vins avec une belle concentration, on a cueilli avec une belle maturité. Donc, la qualité sera là.
Mais avec ces récoltes de plus en plus minces, à cause du réchauffement climatique, la viticultrice prévient, de nombreux domaines pourraient à terme être contraints de cesser leur activité.
C'est la QV 2026-2027 de la Ligue des Champions qui commence aujourd'hui en football avec les 6 premiers matchs dans la soirée. Et c'est Lille qui va ouvrir le bal, hein, côté français à 21h. Lille qui reçoit le Betis Séville, Jean Baumel.
Pour attaquer cette 10e campagne de Ligue des Champions, les supporters lillois sont assez confiants.
Je pense qu'on a fait les bonnes recrues cette année. Je pense que oui, on a une équipe très équilibrée. Je pense que ça va monter en puissance match après match.
Un très bon collectif, un bon groupe. Et puis on a un bon entraîneur cette année, donc ça va le faire.
Le coach lillois, Davide Ancelotti, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions en étant l'adjoint de son papa Carlo au Real Madrid, a de l'ambition pour cette nouvelle édition.
S'il y a une chose que je suis sûr, c'est qu'on va se battre n'importe contre qui, n'importe quel terrain. Et je pense qu'on va... L'objectif qu'on a, c'est d'être extrêmement compétitif dans cette compétition.
Invaincu cette saison et à 2 points du leader monégasque en championnat, le LOSC tentera de bien démarrer sa nouvelle campagne de Ligue des Champions face au Betis Séville, puis face à des grosses cylindrées comme Arsenal ou le Bayern Munich.
Bon, et puis il n'y a plus aucun Français à l'US Open de tennis, hein, c'est fini. Le dernier représentant, Arthur Gé, a été éliminé cette nuit en 8e de finale, battu en 5-7, et alors qu'il a eu une balle de match contre le Néerlandais Van de Zandschulp.
C'était le journal de Quentin Vinet. Un mot aussi pour vous dire, vous l'avez remarqué, j'ai pas tourné la roue ce matin. Ben non, j'ai pas tourné la roue parce que la prime de rentrée, elle a été gagnée. C'est Philippe, hier, Philippe, qui a gagné 50 375 euros dans sa poche. C'était lors des GG, hier, ce fameux jeu de la prime de rentrée. On est très, très heureux pour Philippe. Félicitations à lui. Très heureux que cette prime ait donc été remportée. 50 375 euros.
Ça fait du bien.
Il est 8h09 sur RMC. Ils étaient pourtant venus voir la Dame de Fer. Et en même temps, ils ne voulaient pas voir de femmes. Une délégation religieuse indienne a obtenu l'éviction de salariés et femmes lors d'une visite privée. On leur avait demandé de se cacher. C'était samedi. Une décision qui révolte les salariés qui ont cessé le travail hier. Bonjour Diane Davoine. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes élue CGT de la Tour Eiffel. Vous nous le direz dans un instant, mais on vous a entendu un peu plus tôt lors d'un reportage. Les valeurs républicaines doivent s'appliquer partout. Voilà ce que vous affirmez. Vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez surtout pas. Vous nous appelez au 3216 pour réagir. 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Dans un instant, nous serons en direct avec Diane Davoine, qui est secrétaire du CSE de la Tour Eiffel. Elle représente donc le personnel de la Tour Eiffel. Elle estime que les valeurs républicaines doivent s'appliquer partout après cette journée de samedi ou lors d'une visite, la visite d'une communauté religieuse hindoue. Aux premières heures de l'ouverture de la Tour Eiffel, il a été demandé aux femmes employées de la Tour Eiffel de se cacher. Certaines ont même été enfermées en quelque sorte dans la salle des coffres ou cachées derrière un des piliers de la Tour Eiffel pour ne pas heurter, semble-t-il, la sensibilité de ces religieux hindous. Tollé, évidemment, et hier, spontanément, le personnel s'est mis en grève. La Tour Eiffel est restée fermée en contestation toute la journée. Et avant de pouvoir donner la parole à Diane Davoine qui se connecte avec nous, Bertrand est en direct qui nous appelle de Ouistreham. Bonjour Bertrand.
Bonjour, ça va?
Vous m'entendez?
Ouais, t'es calme, vous?
Oui, ça y est, je vous entends. Bertrand, vous habitez maintenant à Ouistreham, mais pendant longtemps, vous étiez à Paris. La Tour Eiffel fermée hier en protestation. Les femmes ont été écartées lors d'une visite religieuse, ça vous choque?
Non, mais c'est l'avantage, c'est inacceptable. En fait, moi, j'ai bossé 20 ans au Moulin Rouge à l'époque.
Ouais.
Et donc, la Tour Eiffel.
Il y avait des femmes là, au Moulin Rouge. Pas de problème.
Il y a beaucoup de femmes, exactement, des très belles femmes. En effet. Et donc, du coup, la Tour Eiffel, c'est un grand monument historique. On sait, de toute manière, depuis très longtemps, c'est dégueulasse par terre. La Tour Eiffel est rouillée très souvent. Mm. Et donc, du coup, je suis pas surpris.
Vous trouvez qu'il n'y a rien qui va à la Tour Eiffel, c'est ça ce que vous voulez dire?
Rien ne va. En fait, les responsables sont pas nuls, ils sont très nuls. Il faut juste les virer et mettre des bons. Parce que mettre à l'écart les femmes à cause de ce qui va se passer.
Alors, on essaye de comprendre, et j'aimerais justement réussir à lorsque j'aurai Diane Davoine au téléphone dans un instant. Au fond, ce qui est frappant, c'est que depuis hier, ça choque tout le monde. Tout le monde dit c'est un scandale, mais personne n'est capable de dire qui, à un moment ou à un autre, a pris la décision. Qui a dit, le temps de la visite, les femmes ne seront pas à cet étage-là, on va les préposer à un autre job. Personne ne prend ses responsabilités là-dessus. Bertrand, vous avez bien raison. Je voudrais d'ailleurs que Diane Davoine, je crois, a réussi à se connecter. On vous entend, Diane Davoine, je le disais, vous êtes la secrétaire
bonjour.
Du CSE de la Tour Eiffel. Le personnel de la Tour Eiffel qui a donc été en grève hier, qui rouvre aujourd'hui en protestation contre ce moment où les femmes ont été écartées lors d'une visite. Vous-même, vous l'avez dit hier, les valeurs de la République doivent s'appliquer partout, tout le temps. Mais comment ça s'est fait? C'est-à-dire que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre à quel moment qui a pris la décision de dire le temps de la visite, les femmes, vous vous mettez à l'écart.
Eh ben, c'est très simple. Alors déjà, je tiens quand même à rectifier quelque chose que je vois beaucoup dans les médias, que j'ai beaucoup rectifié hier dans les médias. Ce n'était pas un mouvement de grève, mais vraiment un mouvement de protestation spontanée. Donc ça, c'est vraiment pour la terminologie. Maintenant, sur les faits eux-mêmes, toutes les entreprises ont une organisation pyramidale. Les ordres viennent d'en haut, donc... Pour notre part, sur cette délégation indienne et les consignes à appliquer lors de leur visite, ça vient forcément de l'extérieur de la Tour Eiffel, donc ça c'est notre avis, et des directives ont été redescendues à tous les responsables.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, pardon, je suis très, très concrète, vous avez reçu un mail qui disait le temps de cette visite, femmes. Qui à un moment, avec soit par un mail, soit par un SMS, un WhatsApp, ou simplement par la voix, a dit, il a été décider que, donc, mesdames, vous êtes priées de vous mettre sur le côté?
Alors, en fait, il n'y a pas eu d'écrit. Tout s'est passé à l'oral parce que, évidemment, les agents d'accueil être agent d'accueil, c'est un métier de terrain. Donc, nous, on fonctionne énormément à l'oral dans nos consignes au quotidien.
Okay.
Donc, c'est le management de terrain qui a répercuté sur les équipes les consignes qui devaient être appliquées. Et ça s'est fait immédiatement au fil de l'eau.
Mais vous ne me dites toujours pas. Pardon, mais vous ne me dites toujours pas.
Oui?
Est-ce que c'est, la société d'exploitation de la Tour Eiffel? Est-ce que c'est Valérie Pécresse qui accompagnait cette délégation?
Ce sont évidemment des consignes internes à la société, à la tête, à la Tour Eiffel, qui sont redescendues via le management classique, et les encadrants de terrain ont appliqué ces consignes lors de la visite de la délégation.
je ne comprends pas, puisque du côté officiellement, en tout cas, de la représentation, notamment Ariel Veil, me semble-t-il, qui est à la tête de la société des exploitants, lui dit on ne sait pas, mais vous vous dites si, il sait.
Bah, alors moi je sais pas si Monsieur Veil le sait, parce que c'est quelqu'un qui depuis sa prise de poste n'a pas été rencontré. Donc moi c'est un monsieur que je n'ai toujours pas rencontré depuis qu'il est président de la FET.
D'accord.
Donc, après il tient les propos qu'il veut tenir, il y a pas de sujet.
Mais donc c'est
nous concrètement par contre sur le terrain, ce qui est sûr c'est que vous avez un responsable, une hiérarchie +1, +1 qui est au-dessus de vous, qui vous dit attention, tu ne peux pas rester à ton poste de travail parce que la délégation indienne ne peut pas être en contact avec des femmes. Donc les femmes à ces moments-là ont été écartées ou remplacées à leur poste de travail.
C'est très concret et inouï. C'est-à-dire que vous avez été, les femmes, elles ont été mises où?
Alors, pour certaines, on leur a demandé de se placer dans des salles annexes, aux endroits de passage classiques par lesquels tous les visiteurs passent à la Tour Eiffel, et dans les ascenseurs. On pilote également les ascenseurs de la Tour Eiffel. Une femme a été remplacée au pied levé par un homme parce que la délégation devait prendre l'ascenseur.
Inouï. C'est inouï. Aujourd'hui, vous reprenez quand même le travail?
Alors, moi, je suis déjà à la Tour en ce moment. Je suis sur le parvis. J'attends l'arrivée de mes collègues, quand même, pour voir dans quel état d'esprit ils sont ce matin. Il n'est pas prévu d'assemblée générale ce matin. Pour nous, il est prévu que le monument rouvre normalement à son horaire habituel à 9h30. Si la situation évolue, de toute façon, vous serez tous rapidement au courant. Mais en tous les cas, c'est pas dans les cartons du jour.
Merci beaucoup. Merci Diane Davoine d'avoir été en direct avec nous. Secrétaire du CSE de la Tour Eiffel, représentante du personnel. Et Bertrand qui nous appelait de Ouistreham. Il est 8h20 sur RMC. C'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Mais oui, c'est mon heure. Bonjour les amis. Alors ce matin, à Pau, je vous propose de profiter de la vie. Dansons les amis, chantons. Faut profiter parce que l'extrême droite prend petit à petit le pouvoir en Allemagne. La Russie veut étendre son territoire. L'antisémitisme monte partout en Europe. Non plus que le retour de Maurice Chevalier à l'Olympia, on sera définitivement dans les années 30.
L'enfer.
Maurice Chevalier, pour les plus jeunes, c'est le grand-père d'Arthur Chevalier.
C'était qui a fait carrière à Hollywood et qui explique ma présence ici d'ailleurs.
Bien sûr. Voilà. C'est du piston. Hein.
C'était un chanteur, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était un peu le Jul de l'époque.
Ouais. Oui.
Hein, il chantait « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. » Il ne s'en fait pas. Résultat, 3 ans plus tard, 6 millions de morts. C'est compliqué.
Oui, il aurait dû s'en faire un peu.
C'est très difficile. Alors, il y en a quand même un qui a décidé de kiffer la vie, c'est Gabriel Attal. Après un week-end à la braderie de Lille, puis à la foire de Toulouse, puis à la fête des moissons à Rouen, c'est déjà cool, hein. Et ben, il a décidé de pas s'arrêter en si bon chemin. Vous avez vu ce qu'il a lancé? La tournée des 1000 bistrots.
Ah bah voilà.
Il balance ça, c'est officiel. C'est pour aller à la rencontre des Français en septembre. Ça fait 1000 bistrots en 3 semaines, 47 bistrots par jour. Si avec ça, il ne reçoit pas le soutien de Jean-Louis Borloo, je m'appelle plus Arnaud Demange. Alors, en début de journée, ça va aller. Bonjour, je m'appelle Gabriel Attal. Je suis venu travailler, en fait, parce que c'est ma présidentielle bistrot. Je peux avoir un café?
Oh, enfin, il est déjà 7h du mat, tu vas bien prendre un petit blanc. C'est bien l'heure de l'apéro quelque part. Allez, installe-toi, mets-toi là. Mets-toi là, à côté de Jean-Jacques Bourdin. Et ça va être très chouette. Et puis à 17h, ce sera plus la même.
Et moi, je vais vous dire, Macron, et ben, je l'emmerde, Macron. Sur l'économie, il nous a baisés. Sur les retraites, il nous a baisés. Sur les hôpitaux, il nous a baisés.
Et Macron, monsieur Macron,
moi en campagne, pas le droit de le baiser. Il m'a dissolure. Moi je voulais pas être dissolu.
Allez Gabriel, il faut rentrer.
Non. Du blanc. J'ai encore 46 bars à faire, on vient de commencer. Roger, tu sais que t'es mon copain. Tu sais que tu vas voter pour moi.
Bah non, désolé, moi je vote Marine. Bon courage en tout cas, Gabriel Attal. Et on le rappelle, l'abus de macronisme est dangereux.
Bien sûr. La victoire du parti d'extrême droite allemand, l'AFD, préoccupe évidemment la classe politique.
Oui, on en a parlé tout à l'heure à 7h20. C'est une victoire donc dans la région de Saxe-Anhalt.
Pas de jeu de mots hein, sur Saxe-Anhalt. D'autant qu'il y a d'autres régions qui s'approchent, notamment des élections dans les régions de Saxe-Anhalt, dans la région de Cougar-Glücklich et dans la région de Schöneschneck. Et sur ces news, ils ont débattu toute la journée sur ces news. L'AFD est-elle d'extrême droite? Pascal Praud était en roue libre.
Je suis très gêné, moi, avec cette histoire d'extrême droite. Est-ce qu'un parti qui en a marre de la culpabilité nazie est d'extrême droite? Moi, c'est ça qui m'embête. Bien sûr, Hitler a pas tout bien fait. Bien sûr, il y a eu quelques flottements. Mais est-ce que tout est à jeter? C'est ça la question. N'est-ce pas, Christine Kelly?
Oh oui. Mais Pascal, l'AFD veut par exemple séparer les élèves handicapés des autres élèves. Et je me tourne vers Philippe Devilliers. Est-ce que c'est bien une classe composée uniquement d'handicapés?
Mais tout à fait. Artus en a fait un très bon film. Voilà. L'AFD, c'est une très bonne combinaison. Un petit truc en plus et trois gros turcs en moins.
Oh oui. Encore une analyse très équilibrée sur ces news. Eh ben, équilibrons. Et à demain.
Équilibrons, mon Dieu. Arnaud Demanche, tous les jours à 7h15, à 8h15 et à tout moment en podcast. Et sur le terrain, attention.
C'est ma campagne présidentielle.
C'est sa campagne à lui. Il sera à Rennes, à Nice, à Aix-en-Provence, à Rouen, à Issingeaux, à Caen, à Épinal, au Garric. Et c'est un spectacle RMC. Félicitations Arnaud. Il est 8h25, dans un instant c'est le face-à-face et mon invité c'est Jean-Philippe Tanguy, le vice-président du groupe RN à l'Assemblée Nationale. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, il est 8h28.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Cette information RMC, les expertises sur le corps de Liana révèlent une possible mort par asphyxie. Le corps de la collégienne avait été retrouvé dans le Gers début juin après des jours de recherche. Le manque de moyens au cœur de la grève des pompiers professionnels qui démarre ce matin, le gouvernement doit dans le même temps leur présenter un plan aujourd'hui. On l'apprend à l'instant, le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer a été cambriolé. C'est une source policière qui l'indique. Un inventaire des œuvres est en cours. En tennis, il n'y a plus aucun Français en lice à l'US Open. Le dernier Français, Arthur Géa, s'est incliné en huitième de finale cette nuit. Et puis c'est le grand soir en foot. Retour de la Ligue des Champions avec l'entrée en lice de Lille contre le Betis Séville à 21h. La météo, changement de temps, retour de la pluie ce matin sur la Bretagne et les côtes de la Manche avec beaucoup de vent, de la pluie également sur l'est des Pyrénées jusqu'au Massif Central. Les températures de 19 à Brest jusqu'à 36 à Grenoble.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Anne de Valère.
Merci de répondre à mes questions. Vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous êtes député de la Somme. Très nombreuses questions à vous poser. C'est vous qui, il y a 10 jours maintenant, avez redit, au fond, réexplicité l'idée que le RN interdirait le voile. C'est vous qui êtes aussi le monsieur économie. Autant vous dire qu'on aimerait bien comprendre où vous allez faire les 125 milliards d'économies. Je vous en interrogerai dans un instant. Interroge aussi sur les questions internationales. On se demande si ce n'est pas le talon d'Achille aussi du Rassemblement National. Mais d'abord, la Tour Eiffel, on apprend qu'elle va rouvrir dans une heure après avoir été fermée hier. Mouvement de contestation. Les femmes avaient été écartées lors d'une visite officielle d'un groupe religieux hindou, écartées, invisibilisées, mises littéralement dans des pièces à l'écart. Comment vous réagissez?
Bah, c'est scandaleux, c'est intolérable. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont réagi hier. Bon, d'ailleurs, on peut se féliciter que sur ce sujet-là, au moins, la classe politique réagisse unanimement. Je comprends pas comment ça a été possible. Les syndicats ont réagi après, tant mieux. Pourquoi ils n'ont pas réagi avant, pendant, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre cet épisode. J'espère que la lumière sera faite. Moi, je pense déjà aux employés femmes à qui on a demandé effectivement de ne pas être visibles. J'imagine quand même l'humiliation que ça doit être et la douleur qui a été ressentie. Mais Ça correspond, malheureusement, d'une manière générale, dans la société française, à des choses qu'on accepte qui sont inacceptables. Voilà, maintenant, la liberté des femmes est lourdement attaquée au quotidien, sur les libertés vestimentaires, sur les libertés de comportement, sur le fait d'aller dans les quartiers où on veut, de pouvoir prendre les transports publics. Bref, malheureusement, la liste est longue.
C'est
et elle s'allonge d'année en année. Et c'est lié, évidemment, à la proposition de lutter contre le symbole de l'idéologie islamiste et misogyne qu'est le voile islamiste.
Vous faites un lien?
Bah là non, c'est pas la même communauté, non. Mais le fait d'accepter des choses inacceptables et qu'on dise pas grand chose et puis que on se réveille quand c'est un peu trop tard, c'est-à-dire que quand une ligne rouge est franchie, moi j'ai pas envie que d'autres lignes rouges soient franchies et malheureusement il y a beaucoup de lignes rouges qui sont franchies.
C'est ce que vous dites, Jean-Philippe Tanguy, quand vous dites tout ça est lié au fond, ça veut dire que pour vous, l'interdiction du voile, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même eu l'impression que vous relanciez cette idée avec quand même d'abord une question d'applicabilité. Et puis pourquoi maintenant? Pourquoi? Et quel voile? De quoi est-ce qu'on parle?
Non, mais c'est le voile islamiste. Il n'y a aucune difficulté là-dessus.
Le voile islamiste, c'est quoi? Est-ce que c'est le foulard? Est-ce que c'est l'abaya? Est-ce que c'est le voile intégral?
Mais là, vous avez cité trois voiles islamistes. Voilà, l'abaya qui couvre la quasi-totalité du corps, le voile intégral qui voile la totalité du corps, et le hijab qui cache le cou, les épaules, la nuque.
C'est le hijab qui sera interdit ?
Mais on verra. C'est Marine Le Pen qui annoncera dans les mois à venir précisément ce qu'on proposera au sein d'un texte qui sera proposé à un référendum qui est très clair. Le texte, l'article 10 de la proposition de loi pour lutter contre les idéologies islamistes, il y a 39 articles, dont l'article contre les signes idéologiques qui proclament et qui diffusent l'islamisme renvoie à la définition de l'islamisme. Et en fait, ce qui m'étonne dans cette affaire, bon, enfin parmi d'autres, c'est la méconnaissance en fait de nos adversaires politiques, du personnel politique français en général, sur ce qu'est l'islamisme. L'islamisme définit ce qu'est le voile islamiste. L'islamisme, par définition, comme tous les fanatiques, définit à peu près tout ce qui peut correspondre à votre quotidien, dans votre vie. Les moindres détails, comme tous les intégristes et les fanatiques, sont définis. Donc en fait, ils se déclament eux-mêmes comme des juristes. Tout est défini dans l'idéologie islamiste. C'est des pages et des pages de doctrines pseudo-religieuses pour entraver la vie des êtres humains et en particulier des femmes.
Jean-Philippe Tanguy, la France Insoumise, par la voix de Mathilde Panot, disait que eux au pouvoir, ils réautoriseraient l'abaya dans les collèges et les lycées. Elle est interdite depuis 2024. Comment vous réagissez à ça?
Mais ils ont tout lâché, voilà. Là, la gauche a tout abandonné. Idéologiquement, historiquement, c'est la gauche qui était à l'avant pour l'émancipation des femmes, la libération des corps des femmes, car la libération des corps est évidemment liée à la libération des esprits, à l'émancipation intellectuelle, à pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie, et croire l'inverse est complètement absurde. Toutes les sociétés à peu près humaines ont contraint les femmes par le vêtement particulier, par le voile. Nos aïeuls en France, moi je suis d'une famille bretonne, quand vous regardez les photos du début du 19e siècle, les premières photos,
elles étaient voilées,
parfois dans certaines cultures bretonnes, parce que c'est plein de petites cultures, la Bretagne, de noir, pas folichon, parfois avec des belles dentelles, mais l'esprit était le même, à savoir que le corps de la femme était déjà impudique, il fallait le cacher. Donc en fait, ce que je ne comprends
pas... Vous réjouissez que les femmes bretonnes ne portent plus le voile ou la dentelle?
Mais la régression qui est acceptée par de plus en plus de familles politiques, en réalité ce que montre cet épisode, par la totalité des familles politiques maintenant en dehors du Rassemblement National, c'est cette régression que symbolise le voile islamiste sur le corps des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame de Malherbe? Ça veut dire, je couvre mon corps parce que mon corps est impudique devant une religion, une idéologie. Et les hommes, c'est pas aux hommes d'être bien éduqués, c'est pas aux hommes de se restreindre, c'est pas aux hommes de bien se comporter, c'est les femmes qui doivent payer pour ça. C'est inadmissible. Mais regardez ce qui s'est passé. Enfin, vous avez un peu d'expérience, Madame de Malherbe.
Même si vous avez pas
sur les caricatures.
Est-ce que vous n'avez pas vous retrouvé, Jean-Philippe Tanguy, à stigmatiser des femmes? On pense à la mère de la première victime de Mohamed Merah, qui depuis la mort de son fils Latifah Ben Zaten porte le foulard, estime que c'est un signe aussi d'émotion vis-à-vis de la mort de son fils.
De deuil, une
femme comme elle, demain, avec vous au pouvoir, qu'est-ce qui se passe?
Mais je pense que son voile ne rentre pas dans la définition de ce qu'est le voile islamiste, si je m'en confère.
Ça veut dire que vous distinguerez le foulard du hijab.
Mais oui, je pense que c'est là-dessus qu'on aboutira, parce que c'est le sens de la doctrine, de l'article 10 de la loi de Marine Le Pen contre les idéologies islamistes. C'est un article qui renvoie à l'idéologie. Cette dame, excusez-moi, j'ai un trou noir sur son nom.
Latifah Belziaten.
Merci beaucoup. Ne porte pas le voile islamiste. Elle ne proclame pas le voile islamiste. Et ce n'est pas un voile islamiste. Mais en fait, il y a une confusion, c'est pas ce que vous faites ce matin.
Enfin, pardon, mais la confusion, vous l'avez aussi laissé vous entendre, sans préciser de quoi il s'agissait.
Non, moi, sincèrement, l'interview où j'ai parlé de ça, c'est une question de vos collègues. On n'a pas parlé sur une heure d'interview, on en a parlé 4 minutes. Si on m'avait demandé, comme vous faites ce matin, d'être plus long, j'aurais été plus long. D'ailleurs, c'est de ma faute. C'est moi qui ai oublié le référendum sur la loi, mea culpa. C'est pas le
donc,
reste du parti.
Ça passerait par un référendum. Et par ailleurs, vous précisez ce matin qu'il s'agirait donc d'interdire le hijab, mais ne pas interdire le fichu ou le foulard.
On s'attaque pas à un syndrome, à une doctrine culturelle ou à une doctrine religieuse. On s'attaque à un symbole qui est le voile islamiste, tel qu'il a été défini par les deux grands courants, malheureusement, qui ont frappé les démocraties, qui ont abattu un certain nombre de régimes laïcs dans le monde arabo-musulman aussi, à savoir les frères musulmans pour les sunnites, la révolution islamiste en Iran pour
Jean-Philippe Tanguy.
Et vous voyez bien, moi je trouve que moi, sincèrement, hein, c'était intéressant en fait ce qui s'est passé, hein, parce que je trouve que l'abandon de Monsieur Retailleau, qui a complètement abandonné ses valeurs, 80% des électeurs de droite sont pour l'interdiction du voile islamiste, il les a abandonnés. Monsieur Attal, qui faisait des voix pour limiter, interdire le voile aux fillettes, qui malheureusement maintenant dit qu'on peut plus définir le voile islamiste. Vous voyez, Madame de Malherbe, soit on peut définir le voile islamiste pour tout le monde, les fillettes, les adultes, soit c'est pour personne.
La baïa a été reconnue comme un vêtement religieux, donc le Conseil d'État définit aussi ce qu'est un vêtement religieux ou non.
Mais tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire. Moi, quand je vois certains qui essaient de nous coincer entre guillemets,
donc quoi, ça veut dire que pour vous, quand Gabriel Attal était aux avant-postes de ces questions-là, en interdisant la baïa dans les écoles, c'est lui qui avait pris cette décision, en demandant l'interdiction du voile pour les fillettes de moins de 15 ans. Vous avez l'impression qu'il recule sur ces questions-là?
Bien sûr qu'il recule. C'est-à-dire que face à l'obstacle, il recule. Et puis c'est juste pour faire des polémiques contre le Rassemblement National. Et en fait, la liberté des femmes, l'émancipation des femmes, ils en ont rien à faire. La lutte contre l'islamisme et l'idéologie islamiste, ils en ont rien à faire. Et c'est le pas de vague. Voilà. C'est la lâcheté. C'est pour ça que j'ai commencé. Je vous remercie d'avoir posé la question sur la Tour Eiffel. Parce que ce sont deux sujets qui ont l'air différents. Mais il y a un point commun. C'est la lâcheté. Voilà. On ne veut pas affronter les problèmes. On met sous le boisseau, on met dans le placard, on met sous le tapis. Et puis, quand le tapis est trop rempli, on commence à voir qu'il y avait peut-être un problème. Mais parfois, c'est trop tard. Et je voudrais finir sur un exemple, Madame de Malherbe, parce que tous ceux qui nous écoutent savent que c'est la vérité. Il y a 15 ans, tout le monde était pour la liberté de blasphémer. Tout le monde était pour les caricatures religieuses. Tout le monde était Charlie. Maintenant, elles sont où les caricatures religieuses? C'était parti du Danemark. C'est fini. Il n'y en a plus. Dans tout le monde anglo-saxon, et vous savez, les journalistes le reconnaissent eux-mêmes, il n'y a plus de caricatures religieuses.
Elles ne sont pas interdites, mais elles ne sont tout simplement pas dessinées, vous voulez dire? C'est une forme d'autocensure?
Autocensure. Lâcheté, c'est la définition de la lâcheté. Il y a des régimes autoritaires où des gens courageux sont empêchés de s'exprimer, et puis il y a des régimes libres comme les démocraties occidentales où on pourrait s'exprimer et on n'ose plus parce qu'on a la trouille. Et d'ailleurs, je comprends qu'ils aient la trouille. Moi, j'ai reçu des dizaines de menaces de mort. Vous voyez, j'en ai diffusé certaines avec mon collègue Sébastien.
Vous avez reçu des dizaines de menaces de mort.
Des dizaines de menaces de mort que j'ai signalées aux autorités. Des dizaines de menaces de mort.
Là, depuis 10 jours, depuis que vous avez reparlé de l'interdiction
de mort, de viol, de violence. Alors d'habitude, c'est les néo-nazis qui m'agressent parce que je suis leur cible préférée dans le paysage politique. Là, c'est les barbus. C'est pas les femmes d'ailleurs. Je n'ai reçu aucune menace d'une femme et je n'ai reçu d'ailleurs aucune menace, je vais vous dire, de quelqu'un
vous
qui
êtes, vous êtes en train de nous dire, Jean-Philippe Tanguy, que vous êtes régulièrement la cible de menaces de mort. Vous dites de la part des néo-nazis.
D'habitude, c'est les néo-nazis.
Et de la part de ce que vous appelez les barbus, j'imagine que vous parlez des radicaux islamistes.
Oui, des islamistes, oui, parce que je les confonds absolument pas avec les Français de confession musulmane. Je n'ai reçu aucune menace de mort, Madame de Malherbe, et je tiens à le dire ce matin, d'une personne qui se réclamait de l'islam. Zéro. Je n'ai reçu aucune menace d'une femme qui pratiquait sa religion. J'ai échangé sur les réseaux sociaux avec quelques femmes qui pratiquaient l'islam et qui voulaient comprendre notre mesure. Oui, et qui voulaient comprendre notre mesure. Et aucune violence, aucune menace. Par contre, des espèces de mecs d'une vulgarité épouvantable qui me menacent de mort, ils se sont pas réclamés de l'islam. Donc je tiens à faire la différence.
Vous avez porté plainte, Jean-Philippe Tanguy?
Bien sûr.
Vous avez porté plainte?
Enfin, j'ai fait des signalements article 40.
des signalements, article 40. Jean-Philippe Tanguy, vous dites il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, quand vous voyez que l'AFD est à 44% dans un des Landes allemands, que le chancelier allemand se dit profondément choqué, l'êtes-vous aussi ?
Oui, on est choqué parce qu'évidemment il y a des réminiscences de l'histoire et il y a une incompréhension parce que certains de mes adversaires politiques sur les réseaux sociaux depuis hier essaient de polluer ce que j'ai dit. Moi j'ai dit ça sert à rien de diaboliser.
Ils ont été vos compagnons de route.
Moi je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais avec Monsieur Dupont-Aignan à l'époque avant les élections de 2019. On était allé au Parlement européen rencontrer les gens de l'AFD. Bon, on est sorti du bureau du mec qui représentait l'AFD à l'époque, terrorisé. Vraiment, je suis sorti de là, terrorisé avec Nicolas Dupont-Aignan. On s'est dit, mais c'est pas possible, ces gens.
Mais pour autant, avant 2004, le RN n'avait pas rompu.
Et effectivement, quand je suis arrivé au Rassemblement National, avec d'autres, et Marine Le Pen, Jordan Bardella, on avait rapidement décidé de rompre avec l'AFD, qui faisait des déclarations, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus contestables, et ensuite sur un certain nombre d'axes politiques, notamment la remigration, y compris des personnes d'ascendance, enfin d'origine immigrée qui sont intégrées, qui ne sont pas les nôtres, pas du tout. Mais si vous voulez, il faut comprendre, voilà, parce que moi j'ai dit, ça sert à rien de diaboliser. Je pense que ça sert à rien de diaboliser. Il faut répondre au problème des gens.
Ça veut dire quoi, ça sert à rien de diaboliser? Est-ce que vous pensez, comme Sarah Knafou, qu'il faut dire que ce ne sont pas des néo-nazis?
Non, mais il faut condamner ce qui est condamnable.
Est-ce que vous diriez que ce sont des néo-nazis?
Si c'était néo-nazis, en Allemagne, c'est interdit. Voilà, il faut le savoir, parce qu'il faut aussi informer les gens. Heureusement, la constitution allemande s'est protégée de sa propre
donc
histoire.
Donc vous dites aussi ce matin, ce ne sont pas des néo-nazis?
Non, je dis que l'Allemagne, le gouvernement fédéral,
interdit.
Il y a un parti néo-nazi qui a été interdit il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Je dis l'Allemagne ne l'a pas interdit. Donc je dis, moi j'essaie de comprendre pourquoi les gens votent pour eux. Donc, alors que les propositions me choquent. Moi j'essaie de m'adresser, comment dire, collectivement à un débat intelligent entre nous. Dire, diable.
Est-ce que Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous
le
vous dites...
Le prix d'énergie, madame de Malherbe, la politique qui a été menée en Allemagne de l'Est, l'ouverture des frontières complètement irrationnelle par madame Merkel et sans demander l'avis des partenaires européens, je vous le rappelle.
En gros, vous dites, c'est la faute des autres, de ceux qui étaient au pouvoir.
Par définition.
Sauf que quand même, des gens se sont mobilisés pour voter pour eux. 80% de participation, absolument. Un taux de participation en hausse de 20%. C'est un choix sciemment d'avoir voté pour cette liste-là. Est-ce que ça vous fait froid dans le dos? Est-ce que vous dites, comme Monsieur Merz, que vous êtes choqué?
Mais bien sûr que ça me choque, puisque ils ont voté pour des gens qui relativisent le passé nazi de l'Allemagne, qui explique qu'on pouvait être SS sans être une mauvaise personne. C'est scandaleux. Voilà. Mais une fois que vous avez dit ça, il faut comprendre pourquoi les gens votent, parce que sinon vous pouvez pas y répondre.
J'aimerais bien comprendre une chose, Jean-Philippe Tanguy.
Ils n'ont pas voté parce que c'est des nazis. Ils ont voté parce qu'ils arrivent plus à payer leur facture d'électricité. Ils arrivent plus à nourrir leurs gosses.
Il y a le procès des deux assassins présumés,
oui, tout à fait,
d'Aramburu. Loïc Le Priol et Romain Bouvier. Tous deux ont aussi été des compagnons de route à un moment du Front National, du GUD et de la branche jeunesse du parti. Pourquoi je vous pose la question juste après l'AFD? À un moment ou à un autre, vous avez été compagnon de route de l'AFD, ou en tout cas, il y a eu une proximité. Avant de rompre, semble-t-il, la même chose pour Loïc Le Priol et Romain Bouvier, il y a eu une rupture. Mais ils ont, à un moment ou à un autre, été au minimum attirés par ce que le Front National à l'époque, le RN aujourd'hui, représentait. Est-ce que être suivi par des gens comme ça, ça vous écœure? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, oui, il y a, gravitant autour de nous, parfois attiré par ce que l'on est, des gens comme eux?
Malheureusement, oui, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont attirés par nous, puisque le discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella est on ne peut plus clair, c'est le refus absolu de la violence, c'est le refus absolu du racisme, c'est la volonté d'assimiler les étrangers qui veulent aimer notre pays et qui aiment notre pays,
c'est
le refus des discriminations, c'est le refus de l'homophobie, c'est le refus de l'antisémitisme. Mais non, ça dit deux, parce que je les connais très bien. D'ailleurs, excusez-moi, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. Hein. Donc pourquoi je vous ai parlé des néo-nazis qui m'attaquaient en permanence? C'est qu'en fait,
vous
c'est
dites,
eux
je connais ces mouvances.
Mais bien sûr que je les connais depuis des années, depuis le début de mon origine politique, de mon engagement politique. Je les combats. Ils font de la taqiya. D'ailleurs, ils sont comme les islamistes, ces gens. C'est-à-dire qu'ils n'avouent pas leurs vrais sentiments, ils n'avouent pas leur vraie idéologie. Ils viennent vous voir avec des beaux sourires. Ils sont bien peignés, ils sont bien habillés, et vous voyez pas que ce sont des dingues.
Comment Jean-Philippe Tanguy pouvez-vous
et dès qu'on les voit, on les dégage.
Comment pouvez-vous garantir que l'arrivée au pouvoir du RN ne drainent pas derrière elles des personnages de cette sorte.
Mais parce que grâce à Dieu, dans notre pays, ces gens sont complètement... ils peuvent être violents, ça peut malheureusement connaître des violences inacceptables, mais ils ne représentent rien. Voilà. Et ça, c'est quand même la, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle de notre siècle. Les groupuscules violents ne représentent rien en nombre. Ils ne parlent pas à la population française, ils n'intéressent pas la population française, et la population française veut les combattre. C'est pour ça qu'ils se cachent. Parce que vous savez, quand vous connaissez évidemment l'histoire, vous intéressez à l'histoire, les nazis à l'époque, ils se cachaient pas, hein. Si vous lisiez l'abomination qu'est Mein Kampf, tout est écrit dedans, hein. Toutes les horreurs, tout le racisme, l'antisémitisme, la volonté impérialiste de conquérir l'Europe et de soumettre tous les peuples d'Europe, d'éliminer les Juifs de toute l'Europe, était dans dans ce que disait Adolf Hitler. Donc il y avait aucune dissimulation. Donc aujourd'hui, ces groupuscules ont honte d'eux-mêmes et ils ont raison d'avoir honte d'eux-mêmes. Ils savent que la France, le peuple allemand, les peuples européens ne veulent pas cette idéologie mortifère, haineuse, dégueulasse, et il faut les combattre. Et la vraie question, c'est pourquoi ces groupuscules sont si peu dissous.
Jean-Philippe Tanguy.
Le gouvernement les laisse prospérer. Et ça, c'est un vrai problème.
Jean-Philippe Tanguy, il y a eu quelques dissolutions, pas suffisamment à vos yeux. Jean-Philippe Tanguy, 125 milliards d'économies. Une question d'abord sur les économies que cherche actuellement le gouvernement. Ils ont évoqué éventuellement de taxer l'épargne salariale avant que, hier soir, finalement, Sébastien Lecornu, semble-t-il, fasse machine arrière. Est-ce que ça pourrait être une piste?
Non, c'est vrai que c'est profondément injuste. C'était comme 1 milliard d'euros, hein. Ça, c'était un milliard d'euros d'impôts pris sur l'épargne salariale des Françaises et des Français. Donc c'était beaucoup d'argent. On en est quand même aussi au fait que le gouvernement a tellement de fuites et ne maîtrise même plus ses propres troupes qu'ils ont fait un article 40 pour signaler au procureur.
Sébastien Lecornu qui dit qu'il va porter plainte à cause des fuites, effectivement, des projets du gouvernement.
Ils n'ont plus aucune autorité sur leur propre cabinet ministériel. Enfin, il y avait déjà eu des tests de drogue. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte que le gouvernement de la République est tellement débordé par des choses inacceptables qu'ils font des tests anti-drogue dans leur cabinet et ministériel. Et maintenant, ils portent plainte contre leurs propres collaborateurs dans les cabinets ministériels, parce qu'il y a des fuites. Mais vraiment, le macronisme jusqu'au bout, c'est le calice. On boit le calice jusqu'à la
ligne. J'ai toujours pas compris où est-ce que vous alliez trouver les 125 milliards. Bah, c'est-à-dire que si à chaque fois qu'il y a une piste, elle est refermée.
Mais c'est pas une économie, ça, c'est des taxes, madame de Malherbe. C'est pas une économie de prendre de
l'argent. Donc les 125 milliards, ce sera des économies.
C'est que des économies. Ce ne sont que des économies. Vous savez, ces 125 milliards d'euros, d'où ils viennent? C'est un rapport de Bercy. C'est ce qu'on appelle un ajustement budgétaire. Pour rétablir les comptes, faut 125 milliards. Soit des économies, soit des hausses d'impôts. Le rapport de Bercy remis au ministre de l'économie voulait faire à peu près moitié-moitié. Non, on fait pas moitié-moitié. C'est des économies sur, la politique, migratoire, sur la contribution de l'Union, à l'Union européenne, sur le millefeuille territorial, sur la bureaucratie, sur un certain nombre de systèmes injustes que Marine Le Pen présentera mi-octobre. Et la trajectoire, elle sera présentée entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et vous verrez que tout ça sera très
allez
clair.
Vous associer,
et c'est très important.
Allez vous associer et vous montrer aux côtés de Nigel Farage avec cette situation où on se retrouve à avoir un texte où vous êtes obligé de le justifier derrière, mais il semble quand même à la défaveur, évidemment, de la France. Est-ce que vous n'avez pas été les dindons de la farce dans cette histoire? Parce que Jordan Bardella n'a pas été le dindon.
Non, c'était courageux, parce qu'il faut envoyer... Il y a une seule politique migratoire qui a vraiment fonctionné ces dernières années, c'est l'Australie, en envoyant un signal très clair à tous les migrants et les clandestins, vous n'avez pas d'avenir en Europe, en France, au Royaume-Uni. Ne risquez pas votre vie, ne payez pas les passeurs, ne prenez pas les bateaux depuis les côtes africaines ou turques pour venir en Europe. Vous n'avez pas d'avenir chez nous, vous ne serez pas reconnu comme un migrant légal, donc ne venez pas. Voilà, ne venez pas. Et c'est très courageux parce que, vous voyez, c'est facile d'utiliser les migrants, comme des arrangements entre les pays. Aujourd'hui, l'accord, il est quand même sordide parce que peu de gens en parlent de l'accord qu'il y a aujourd'hui entre le Royaume-Uni et la France. C'est quoi? C'est take in, take out. Donc, tu me prends un migrant, je t'en donne un autre. Tu prends un Soudanais, je te prends un Afghan. Mais qu'est-ce que c'est que ces comptes sordides? Et personne dit rien et c'est nous qui sommes des méchants. Il faut appliquer la loi internationale. Nous, on veut que chacun reprenne ses migrants. Et la France ne peut pas demander aux pays méditerranéens africains de reprendre les clandestins si elle-même, elle reprend pas les siens. Voilà. Donc cette espèce d'hypocrisie et de politique à la petite semaine,
Jean-Philippe Tanguy, sur ce volet,
on est cohérent.
Sur ce volet international, une dernière question. Sarah Knafou dit qu'elle aimerait potentiellement être ministre dans un gouvernement Bardella. Sarah Knafou dit par ailleurs que l'AFD, bah, c'est pas des néo-nazis et siège avec eux au Parlement européen. Est-ce que les amis de vos ennemis sont quand même vos amis? Est-ce que Sarah Knafou, dans ces conditions-là, peut vraiment travailler avec vous?
Non. mais Madame Clafaut est prête à tout pour exister, relativiser ce que vous venez de dire. Mais aussi, je vous rappelle que quand Monsieur Bannon avait fait un salut nazi aux États-Unis dans une convention, Jordan Bardella avait immédiatement quitté les lieux. Sarah Knafaut était restée en disant que c'était pas si grave. Moi, je ne comprends pas comment Sarah Knafaut peut tenir ses positions. Je crois que c'est de l'opportunisme absolu, tout pour exister, trahir tout le monde. Bon, cet été aussi, ça n'a pas fait grand bruit. Hein. Enfin, je tiens quand même à le dire. Elle avait donc fait pression, Madame Knafaut, sur Charles Laloncle, député qui allait devenir rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, pour ne pas auditionner ses copains Xavier Niel et Mathieu Pigas, milliardaires, pour pas qu'ils soient gênés par les questions de la commission.
On lui posera la question. On lui posera la question à Sarah Knafaut.
J'aimerais bien qu'on lui pose, parce que ça fait deux semaines qu'elle est partout sans qu'on lui pose cette question de trahison et de pression, parce qu'elle est anti-système, sauf pour dépendre Xavier Niel et Mathieu Pigas.
Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale et député de la Somme, vous êtes bien sur RMC et BFM TV.